Vous écoutez
RMC.
Il est 6h30, excellent réveil à vous tous sur RMC et RMC Story. C'est l'heure du journal de Thibaut Texa. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Nouvelle soirée de tension à Rennes, Grenoble, mais aussi Paris. Des milliers de personnes se sont rassemblées contre la réforme des retraites lors de manifestations spontanées. La foule n'a pas de légitimité face aux élus. Les mots d'Emmanuel Macron hier soir face aux parlementaires de la majorité ne devraient pas apaiser la situation. Le chef de l'État va s'exprimer à 13h ce mercredi. Et puis Paris 2024 recherche 45 000 bénévoles pour encadrer la compétition. Ouverture des inscriptions aujourd'hui.
La colère de la rue continue dans de nombreuses villes du pays.
Sixième soirée de mobilisation à Rennes, Nantes, Grenoble, mais aussi Paris. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans la capitale. 3500 personnes se sont rassemblées place de la République à l'appel des syndicats. La situation a dégénéré plus tard dans la soirée après le départ des organisateurs face à face tendu avec les forces de l'ordre, jet de projectiles et utilisation de gaz lacrymogène. La contestation s'est étendue à d'autres quartiers de la ville. 46 personnes au total ont été interpellées. Récit de la soirée, Caroline Philippe et Rémink.
Partout sur la chaussée, des détritus calcinés.
Le gros tas de poubelles qui est juste là.
Cette rue près de la place de la Bastille s'est embrasée avec plusieurs feux de poubelles très rapprochés. Thibaut était sur place.
On a dû faire demi-tour parce qu'il y avait trop de fumée dans la rue, donc on voyait absolument plus rien. C'était super impressionnant, surtout qu'il y avait des feux vraiment tous les 10 mètres, quoi. Et il y avait vraiment beaucoup de policiers. C'est impressionnant et ça met un petit peu la rage aussi parce qu'on voit beaucoup de violence, donc... On le voit à la télé, mais de le voir en vrai, c'est pas pareil, quoi.
Un peu plus tôt dans la soirée, la situation s'est tendue. Après un rassemblement organisé par les syndicats, place de la République, ces deux manifestantes regrettent le climat actuel.
En fait, on a l'impression qu'on n'a plus le droit de manifester, qu'on n'a plus le droit de se regrouper, qu'on n'a plus le droit de contester. Dès qu'il y a un rassemblement, il est tout de suite écarté. Il y a tout de suite la police qui vient, qui envoie des gaz lacrymo.
En fait, on est là pour montrer le mécontentement, mais pas pour se faire arrêter ou avoir des flashballs dans la tête. Du coup, quand on voit que la tension monte... On sera obligé de partir, malheureusement, quoi.
Des scènes observées aussi à Grenoble, Rennes, Lille ou Nantes.
Et des manifestants remontés contre l'exécutif dans le viseur. Emmanuel Macron, il va s'exprimer à 13h ce mercredi devant les Français. Le chef de l'État qui s'est fendu d'une petite phrase hier devant les parlementaires de la majorité affirmant que la foule n'avait pas la légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus. Référence au rejet de la motion de censure lundi à l'Assemblée nationale. Des mots Hélène Terzian qui pourraient mettre de l'huile sur le feu de l'aveu même d'un parlementaire.
En coulisses, on s'empresse de préciser que l'exécutif est du côté de l'ordre démocratique. C'est ce qu'explique le député Renaissance Pierre-Alexandre Anglade.
Celles et ceux qui ont envie de s'exprimer sont tout à fait légitimes et fondés à le faire. À ne pas confondre avec les scènes d'émeutes auxquelles parfois on peut assister, qui sont le fait de casseurs, de l'ultra-gauche, d'anarchistes qui, au fond, ne manifestent pas tant contre la réforme des retraites, mais contre les institutions. C'est de cette manière-là qu'il faut entendre l'expression du chef de l'État.
Emmanuel Macron qui tente aussi de donner un cap à ses troupes. Ses priorités, l'école, la santé, l'écologie et pour réformer plus d'efficacité parlementaire, d'après le député Horizon, Laurent Marcangeli.
Il a demandé de travailler dans un sens de simplification du mode de fonctionnement de l'Assemblée nationale, pour qu'il y ait moins de textes, pour que nous soyons plus présents sur le terrain.
Un début de changement de méthode que le président devrait aborder aujourd'hui, mais dans son entourage, on prévient, ce n'est qu'une première étape. Il devrait s'exprimer à nouveau d'ici un mois environ.
Les moments forts de la prise de parole d'Emmanuel Macron aujourd'hui et toutes les réactions à vivre en direct sur RMC et RMC.fr. Interview d'Emmanuel Macron aujourd'hui à 13h à suivre sur TF1, France 2 mais aussi BFM TV. Une prise de parole qui intervient à la veille d'une 9e journée de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale. De nombreuses perturbations sont à prévoir sur les rails, dans les airs, dans les transports en commun ou encore dans l'enseignement. Un mouvement de grève qui s'ajoute au secteur déjà mobilisé, c'est le cas des raffineries. Après la réquisition par le gouvernement de personnel nécessaire au fonctionnement du site de Fos-sur-Mer près de Martigues. Hier, des échauffourées ont éclaté dans la matinée. 3 CRS ont été blessés. Les manifestants promettent de reprendre le dépôt aujourd'hui. La raffinerie alimente en carburant la PACA, mais aussi une bonne partie de l'Occitanie. Ce matin, 54% des stations-service sont sous tension dans les Bouches-du-Rhône. 41% sont à sec. Dans ces conditions, se fournir en carburant devient de plus en plus difficile.
Et la situation pour l'essence, malheureusement, on l'a subie. Donc, petite galère, mais on n'a pas le choix, donc on fait avec.
Toujours la merde. On ne travaille pas, il n'y a rien.
Il faut l'essence, quoi. Si je n'ai pas d'essence, je ne travaille pas. C'est simple. Donc, ça m'énerve, ça.
Vraiment, c'est une catastrophe. Et vraiment. Presque, j'ai visité toute Marseille pour les stations.
Il faut qu'on nous trouve une solution.
Eh ouais, on ne peut pas rester galéré comme ça.
C'est vraiment...
C'est désespérant.
À chaque fois, on va chercher, appeler nos amis pour trouver où mettre de l'essence. Mais il faut les comprendre aussi. Deux ans de plus, c'est chaud quand même.
Et quatre stations du département sont ce matin réservées aux services prioritaires tels que les professions médicales, services publics et maintenance et sécurité. Il est 6h35 sur RMC à l'heure du réchauffement climatique. C'est une alerte de l'ONU sur une pénurie d'eau avec un risque imminent de crise mondiale. Près de 2 milliards de personnes dans le monde sont à ce jour privées d'eau potable. Si vous avez envie de participer aux Jeux de Paris 2024, c'est le moment de déposer votre candidature pour devenir volontaire. La plateforme d'inscription ouvre ce matin. 45 000 personnes seront recrutées. Parmi eux, un ancien champion olympique de saut d'obstacle, Pierre Durand, qui ne manquerait l'événement pour rien au monde. Nicolas Paolorsi l'a rencontré pour RMC.
Oui, Pierre Durand n'est pas un volontaire comme les autres. À Séoul, en 1988, il est sacré champion olympique sur son célèbre cheval Japelou. Sa vie est entièrement marquée par les Jeux.
Tous mes choix de vie se sont faits en fonction d'une quête de l'or olympique. Ça vous colle à la peau, c'est resté à moi. Avec toujours envie, l'envie d'être tous les 4 ans présent à ce rendez-vous incroyable.
À 68 ans, Pierre Durand ne pouvait pas manquer un événement comme les Jeux olympiques.
J'ai du mal à imaginer que je puisse regarder ces Jeux olympiques sans y avoir un rôle.
À Paris, la légende de l'équitation française se voit occuper plusieurs rôles avec une envie bien particulière.
Quand les athlètes enlèvent leurs survêtements, ils les mettent dans un panier qui est tenu par un bénévole ou un volontaire. J'aimerais bien être un de ceux-là à l'occasion d'un des grands moments des Jeux en athlétisme à Paris.
Comme les autres volontaires, sa candidature sera étudiée avant de lui confier des responsabilités. Mais avec 7 Jeux olympiques à son actif en tant qu'athlète, dirigeant ou consultant dans les médias, difficile d'imaginer meilleur candidat que Pierre Durand pour Paris 2024.
Et si vous souhaitez postuler, Apolline, il faut avoir 18 ans, c'est bon. Ouais. Parler français ou anglais, c'est bon. Être disponible en août 2024.
Bon, écoutez, oui, ça peut s'arranger.
Voilà.
Mais faut vraiment donner de sa personne, hein, parce que si j'ai bien compris, c'est en effet bénévole.
Ah, c'est complètement bénévole. Ah,
mais même pas défrayé, c'est-à-dire qu'il faut que, il faut que les gens.
Les transports en commun parisien seront remboursés et la nourriture.
Ah, il y a à manger.
Oui. Il y a à manger. Écoutez, je suis disponible.
S'il y a sandwich, on est là.
On y va. On y va, Manu.
Ah, ouais.
On y va, Nico.
Ah, ouais. Ah, mais si on peut voir des trucs gratos.
On sera là. Oui, on indiquera le chemin. On aura des petits badges Paris 2024. On est au taquet. Il est 6h38 et vous êtes bien sur RMC. On a oublié les courses, non?
Oui, 13h50 sur RMC Découverte. C'est à Lisieux. Le 14, Ritano est le favori de la Dream Team RMC. L'outsider, c'est le 12, Goutte du Houlbé. Le 14 et le 12.
C'était le journal de Thibaut Texer.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
On n'attend plus rien de lui. On attend la suite, hein.
Et vous attendez quoi comme suite avec l'interview d'Emmanuel Macron aujourd'hui à 13h? Ça vous fait réagir depuis ce matin, notamment cette phrase du président de la République devant les députés, je cite, « La foule n'a pas de légitimité face aux élus ». Alors vous étiez peut-être dans les manifestations, est-ce que vous estimez que vous êtes du côté de la foule et que vous avez une légitimité, ou est-ce que comme Emmanuel Macron, vous considérez qu'il faut passer à autre chose et accepter la décision de censure rejetée? Venez donc prendre part à la discussion sur RMC, on vous attend au 32-16. On est avec Manu, Nicolas et Charles. A tout de suite.
RMC Police Justice.
L'histoire du jour repérée par le service Police Justice d'RMC. Ce matin, Marion Gauthier, vous revenez sur une affaire de trafic présumé de stupéfiants qui commence à Lorient, dans la cour d'un collège.
Et oui, car c'est là qu'un élève de 12 ans s'est mis à distribuer des billets de 50 euros à ses camarades. Au total, 5000 euros de coupures orange partagées entre deux classes, dépensées en montres, en vêtements de marque, en téléphone. 5000 euros empruntés à son père pendant qu'il était en vacances en Tunisie. La direction du collège aurait alerté le commissariat qui déroule rapidement le fil. 40 000 euros des coupures de 50 encore sont ainsi retrouvées dans une armoire au domicile de la grand-mère du garçon. 8 kilos de résine de cannabis, de la cocaïne dans un box du centre-ville et une voiture volée dans un garage loué. De mémoire de policier l'orienté, un dossier surprise, du jamais vu. Le retour de vacances s'impose, le père de famille s'est présenté lui-même au poste, fait valoir son avocat et à la barre, il se défend, racontent nos confrères de Ouest-France. Il a gagné au casino et s'il touche de l'argent chaque mois pour garder de la drogue en sécurité, je cite, il ne trafique pas. Les détenteurs du RSA n'entassent pas des sacs de billets dans dans des armoires, aurait lancé le procureur. Le trentenaire a été relaxé lundi pour le recel de véhicules, mais condamné pour détention et transport de stupéfiants à 3 ans de prison, dont un avec sursis.
Le récit de Marion Gauthier avec le service police-justice d'RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
6h42, excellent réveil à tous.
C'est votre avis.
Une question ce matin. Qu'attendez-vous de l'interview d'Emmanuel Macron tout à l'heure à 13h, le président qui répondra à la télévision près d'une semaine après le déclenchement du fameux 49-3, alors que les mobilisations se multiplient dans la rue et que sa cote de popularité est désormais au plus bas. Hier, il était devant les députés, Emmanuel Macron, et il a donné le ton, il a dit deux choses. Il estime qu'il faut apaiser et écouter les colères, mais il dit également que la foule, quelle qu'elle soit, n'a pas de légitimité face aux élus, au peuple qui s'exprime en souverain à travers ses élus. Que le peuple qui est dans la rue ne vaudrait pas le peuple qui est donc représenté par ses élus. Est-ce que vous estimez donc que le vote, également, qui est aussi une des phrases d'Elisabeth Borne, qui a dit au fond, il y a eu un vote, on peut donc parler de victoire. Est-ce que le vote au sens 49-3, c'est-à-dire un vote bloqué, un vote pour ou contre ce gouvernement, vaut pour vous un vote qui aurait dû avoir lieu à l'Assemblée classiquement? Stéphane est avec nous, qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour Apolline.
Stéphane, vous êtes artisan dans le nettoyage, c'est ça? Donc à 6h43, vous bossez déjà, j'imagine.
Je suis parti et je pars tous les matins à 4h30 du matin.
Je ne sais pas si vous serez de retour, je ne sais pas si vous faites partie de ces Français qui rentrent déjeuner, comme dit l'équipe d'Emmanuel Macron, qui justifie d'avoir choisi d'une expression à 13h en disant « on veut s'exprimer face aux, je cite, Français des territoires qui rentrent déjeuner chez eux ». Est-ce que c'est votre cas d'abord, Stéphane? Est-ce que vous l'écouterez?
Non, du tout, je ne rentre pas à la maison à midi. Moi, j'ai appelé parce que tout à l'heure, je prends mon véhicule et encore une nouvelle fois, j'entends que les gens vont être embêtés avec le carburant, etc. Mais ils sont favorables à cette grève.
Oui,
je suis désolé,
c'est on ce m'a qu'on jamais entend demandé. Beaucoup.
Allô?
Oui, je vous entends parfaitement. Allez-y, Stéphane.
Oui. Je suis désolé, on m'a jamais demandé si moi j'étais favorable ou défavorable.
Ah ben on vous le demande, Stéphane, ça tombe bien, vous.
Eh ben je suis défavorable à ce que les gens cassent tout. Et il y a des gens qui votent, il y a les présidentielles, il y a les législatives. On a une matrice d'outils démocratiques ici en France. Mmh. Et d'un seul coup, parce qu'on n'est pas content, c'est de l'égoïsme. La réforme de la retraite, on sait très bien qu'elle doit être réalisée. Donc c'est un peu comme le réchauffement climatique. Hein. Je veux pas faire d'efforts. Mmh. Je voudrais que ça s'améliore, mais je voudrais pas faire d'efforts. Moi, j'ai pas envie. Je vais être à la retraite le 1er août. Le 1er août, je suis à la retraite. Et si on me dit, par exemple, dans 15 ans, après on a des difficultés à vous payer, je vais faire quoi, moi? Il y a des choses à faire. Faut reprendre le phrasé de François Bayrou, qui était assez juste. L'explication du gouvernement a été très, très mauvaise. Très mauvaise. Mais la réforme, elle doit être faite.
En fait, il y avait le grand principe, et d'ailleurs, quand on écoute, par exemple, quelqu'un comme Laurent Berger, il dit la réforme des retraites, elle est nécessaire, c'est-à-dire il faut en faire une, mais il aurait fallu en faire une beaucoup plus juste. Il était favorable à cette idée de réforme par points, par exemple. Stéphane, vous avez quel âge, donc, si vous partez à la retraite, là, le 1er août?
Moi, j'ai 61 ans et demi, mais j'ai commencé à travailler, j'avais à peine 17 ans. Donc, sur carrière longue.
D'accord. Et si on vous avait dit maintenant, alors parce que là, vous allez quand même l'apprendre, puisque c'est cette année, vous ne faites pas partie de ceux qui seront concernés par l'application de la réforme, puisque ça ne se mettra en place que l'année prochaine. Revenez 2 ans en arrière. On vous dit, vous deviez partir dans 2 ans, finalement, vous allez partir dans 4 ans. Comment vous l'auriez vécu?
Vous savez, j'ai un fiston de 21 ans. Mmh. Aussi bien l'inquiétude que je peux avoir pour lui au niveau réchauffement climatique qu'au niveau économique, j'aurais mis le collier pendant 2 ans. Vous savez, je travaille depuis l'âge d'à peine 17 ans, donc le travail ne m'a jamais posé problème. Là, j'ai un petit problème de dos, donc je m'arrête plus tôt que prévu. Mais sinon, non, il y a trop d'égoïsme. On est des enfants gâtés. Les gens oublient qu'en 2020, lors du Covid, les gens se promenaient. Moi, j'ai travaillé non-stop. Hein, je suis dans le nettoyage, donc je ne suis pas arrêté. Il y a des gens qui ont profité de leurs enfants, etc., payés par l'État.
Et d'ailleurs, certains disent que c'est aussi parce qu'on a dépensé beaucoup d'argent à ce moment-là et qu'on est capable de faire le quoi qu'il en coûte qu'aujourd'hui, on est dans une situation économique qui fait que la dette s'est en augmenté. On ne peut pas se permettre. Stéphane, restez avec nous parce qu'il y a aussi Christophe qui a appelé lui de Gironde. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Christophe, vous êtes chauffeur de camion poubelle et est-ce que vous faites partie de ceux qui envisagent de poursuivre la grève?
Moi, je suis chez nous, ils font pas grève, ouais, encore. Ça va arriver parce qu'ils en parlent. Il y a des dépôts déjà où on vide qui sont en grève. Et par contre, si on est réquisitionné, moi, ben, je serai malade. Voilà, parce que je veux pas casser une grève. Donc, comme c'est une entreprise privée, moi, l'entreprise, elle m'a rien fait, donc je fais pas grève. Parce que je vais pas pénaliser mon entreprise. Mais voilà, j'irai pas aux réquisitions, je serai malade ce jour-là, voilà.
Mais vous trouvez que les réquisitions, c'est pas possible, c'est une manière de casser la grève?
Ah oui, c'est une manière de casser la grève.
Réquisitions qui ont donc été décidées à la fois dans le secteur des raffineries depuis hier. Plusieurs dépôts de raffineries ont été réquisitionnés. Et puis, effectivement, à Paris, plusieurs réquisitions de déboueurs notamment qui ont été même jusqu'à être cherchés chez eux pour se remettre au travail. Mais Christophe, quand vous entendez Stéphane qui dit « Oui, mais enfin, à un moment, de toute façon, faut bosser. » Stéphane qui a commencé à travailler à 7 ans.
Oui, mais là, il a mal au dos, donc il s'arrête avant. Mmh. Mais à 64 ans, il y a d'autres personnes qui auront mal au dos. Donc il faudra qu'ils s'arrêtent et voilà. Donc
c'est très intéressant ce que vous dites, Christophe, et je voudrais que Stéphane puisse vous répondre. Stéphane, qu'est-ce que vous répondez à ça? Au fond, finalement, en effet, vous faites partie de ceux qui se disent bah à un moment mon corps.
Non, mais mon corps, attention, quand je dis j'ai mal au dos et je m'arrête là, c'est du confort, parce que j'ai la possibilité, parce que ça fait 44 ans que je cotise, ça fait 44 ans. Mais s'il fallait remettre un peu, excusez-moi du terme, un coup de collier, il y aurait pas de souci. Je veux dire par là que je vous entends dire que vous voulez pas casser la grève.
Oui, mais
excusez-moi monsieur, deux secondes, avec tout le respect que j'ai pour vous, de botter en touche et de s'arrêter en maladie parce que vous voulez pas gêner l'entreprise, mais pas casser la grève, excusez-moi du terme, mais c'est un peu, je suis désolé, hein, mais c'est un peu faux cul, quoi.
Christophe, est-ce que c'est faux cul?
Ah ben non, comment? Pas du tout. Moi, mon entreprise, elle m'a rien fait. Même mon patron a dit que si on était réquisitionné, lui, il veut pas travailler jusqu'à 64 ans, donc si on était réquisitionné, ben, le camion sera en panne, il y aurait des choses comme ça, voilà.
Ah, donc le patron lui-même, il veut pas
travailler jusqu'à 64 ans, voilà, il veut pas travailler jusqu'à 64 ans.
Vous avez commencé à quel âge, vous, Christophe?
Moi, j'ai commencé à travailler dans le poids lourd, j'avais 26 ans, mais j'ai commencé à travailler à 18 ans.
Ouais. 18 ans. Donc si on vous dit faut aller jusqu'à 64 ans, ce qui va être le cas,
ah,
hein,
non,
de fait,
moi, hein, je
Christophe.
M'arrêterai avant. Moi, j'ai la chance d'avoir des apparts et tout ça, de pouvoir
m'arrêter dans 5 ans. Ah, bah si monsieur a des apparts, Christophe.
Mon projet, c'est de vendre à 55 ans, je m'arrête et voilà, quoi. Après, chômage jusqu'à la retraite et puis voilà.
Donc il y a quand même toute une organisation. Enfin, là, pardon, Christophe, vous profitez quand même un peu du. Vous êtes content que le système fonctionne bien. C'est-à-dire, si vous vous mettez au chômage à 58 pour profiter des loyers de vos apparts.
C'est malheureux à dire, mais si j'en profite pas, ça va être quelqu'un d'autre qui va le faire. Donc maintenant, voilà.
Oui, enfin, dans ces moments-là, c'est marrant. On refuse la retraite à 64 ans, mais en même temps, on se met plus tôt pour pouvoir profiter
En même temps, ses apparts, il les a achetés.
Exactement.
Il faut rappeler à tous ceux qui vont manifester.
Oui, mais pour pas la retraite. Le je me mets au chômage.
Non, d'accord.
Emmanuel.
Non, je suis d'accord. Mais après, il faut rappeler quand même à tous ceux qui vont manifester que ça ne les empêche pas de penser à comment ils peuvent préparer leur retraite eux-mêmes. Parce qu'ils iront sans doute plus loin financièrement quand.
Christophe Emmanuel approuve le fait d'avoir investi dans du bien locatif.
Pour soi-même en matière de retraite.
Stéphane et Christophe, merci à tous les deux en tout cas. Et d'en avoir débattu aussi ensemble ce matin sur RMC. On a posé le décor et on poursuit avec vous tous pour débattre tous ensemble. Qu'attendez-vous, tiens, d'Emmanuel Macron qui s'exprimera à 13h? On va revenir également sur sa phrase sur la légitimité, la non-légitimité de la foule.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, il y aura le portrait du jour, Nicolas.
Et c'est Olivier Matteux, le patron de la CGT des Bouches-du-Rhône. C'est un homme en colère.
Et de vos histoires, Charles?
Eh bien, je vous propose une bonne dose de bonheur matinal dans un instant.
À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Mais tout de suite, on va faire un tour sur l'appli RMC avec Direct Studio. Alors qu'attendez-vous de cette prise de parole d'Emmanuel Macron? Yannick nous écrit « Emmanuel Macron a raison hier soir quand il dit que la foule ne peut pas avoir raison. Sinon, ça sert à quoi de se déplacer pour aller voter, pour élire des députés et des représentants? Le président, selon moi, a raison », écrit Yannick. Tout à l'heure, il va siffler la fin de la récré et ceux qui seront dans la rue vont encore faire les vierges effarouchées. Voilà ce que pense Yannick. À l'inverse, Jean-Baptiste nous écrit « Quel mépris de la part d'Emmanuel Macron. Si les élus étaient vraiment des élus du peuple, eh bien les députés du Modem ou les députés de Renaissance auraient voté la motion de censure. C'est bien ça le hic. qu'ils ont voté pour leur parti, pour leur petit intérêt et non pour leurs électeurs. Voilà ce qu'en pense Jean-Baptiste. Et puis j'ai aussi Stéphane qui nous dit Emmanuel Macron, on va parler à 13h, mais comment veut-il que nous, la France qui bosse, soyons devant la télé à 13h tout à l'heure? Voilà ce que pense Stéphane. Et vous, qu'attendez-vous de cette prise de parole d'Emmanuel Macron? Vous nous le dites tout de suite au 32-16 et sur l'appli RMC avec Direct Studio.
RMC, Apolline Matin.
Et il est 6h56, c'est l'heure du portrait de Nicolas Poincaré.
Le portrait du jour.
Nicolas, vous nous dressez le portrait d'Olivier Matteux, c'est le patron de la CGT des Bouches-du-Rhône. Tiens, il était à notre antenne la semaine dernière, c'est un homme en colère.
Oui, en colère parce que le préfet des Bouches-du-Rhône hier a donc réquisitionné du personnel à la raffinerie de Fos-sur-Mer et il a envoyé les CRS. Or, Olivier Matteux raconte qu'il avait personnellement prévenu le préfet à la première réquisition, ce sera la guerre, on vous met le feu. Il avait précisé, ce n'est pas une expression, ce sera le feu au sens propre avec des flammes. Hier, il a appelé à reprendre la raffinerie. Il a dénoncé l'intervention de la police qu'il appelle la milice de Darmanin. Bref, il ne fait pas dans la nuance, ce n'est pas son genre. Dans son bureau au siège de la CGT 13, il y a des affiches de Fidel Castro, du Che Guevara, d'Hugo Chavez. Il y a un livre de Georges Marchais, le dernier dirigeant du Parti communiste.
On dirait le bureau de Manu Le Chypre.
C'est le même combat.
Georges Marchais, le dernier dirigeant du Parti communiste français qui était aligné sur l'URSS. Le Parti communiste auquel Olivier Matteux a adhéré à l'âge de 12 ans. Ses deux parents en étaient membres également. Aujourd'hui encore, il ne cache pas sa nostalgie pour l'URSS ni ses penchants pro-russes. Il condamne les dirigeants ukrainiens et américains exactement dans les mêmes termes que Vladimir Poutine.
Et il est aujourd'hui candidat à la direction de la CGT.
Oui, un des trois candidats qui voudrait remplacer Philippe Martin qui quitte ses fonctions dans quelques jours. Il n'est pas le candidat du secrétaire général sortant. Philippe Martinez explique qu'il ne souhaite pas le voir à la tête du syndicat parce qu'il veut une CGT ouverte, féministe, écologiste et prête à discuter avec les autres organisations syndicales. Façon de dire que selon lui, Olivier Matteux n'est ni ouvert, ni concerné par l'environnement, ni concerné par la cause des femmes, ni intéressé par l'union syndicale. Il n'est pas encore certain que la candidature du président de la Fédé des Bouches-du-Rhône soit retenue au prochain congrès. La direction soutient Marie Buisson, qui est la patronne de la branche éducation. Elle est plus consensuelle, mais beaucoup moins combative. Olivier Matteux propose lui une alternative radicale. Dans une interview à Mars Actu, un site d'info marseillais, il se définit comme anarcho-syndicaliste. Il décrit la double besogne d'un syndicaliste, défendre le quotidien des travailleurs et concevoir une société nouvelle. Voilà le programme.
Et il tient d'une main de fer, en effet. La CGT des Bouches-du-Rhône, on sera dans les Bouches-du-Rhône. Tiens, côté patronat, pas tout à fait côté Olivier Matteux, ce sera en direct à 7h40 tout à l'heure, parce que les patrons là-bas disent effectivement qu'il y a beaucoup de difficultés aussi pour poursuivre le travail. 6h56, les histoires de Charles.
Les histoires de Charles.
Vous nous emmenez au pays du bonheur, Charles.
Oui, Apolline, direction la Finlande. La Finlande qui, pour la 6e année consécutive, se classe en tête du baromètre du bonheur dressé par l'ONU, le World Happiness Report. Alors visiblement, pour être heureux, il faut aimer le froid, puisque le Danemark et l'Islande complètent le podium. D'ailleurs, dans le top 10, on trouve aussi la Suède, la Norvège. Bon, je vous rassure, il y a quelques pays un peu plus chauds en haut de ce classement, comme Israël, qui est 4e, ou la Nouvelle-Zélande, 10e. Et nous, alors, me direz-vous, eh bien, la France est à la 21e place. On perd une place, hein, cette année.
Mais comment on mesure le bonheur?
Eh ben, les experts de l'ONU s'appuient d'abord sur des sondages menés dans plus d'une centaine de pays. On demande aux habitants d'évaluer eux-mêmes leur niveau de bonheur sur une échelle de 0 à 10. Et ensuite, on croise ces résultats avec des facteurs plus objectifs, comme le système de santé, le niveau de revenu, la liberté, la générosité, l'absence de corruption dans le pays. Et à la fin, on obtient un indice, un classement. Bon, il manque évidemment un critère important que les experts de l'ONU ont oublié, l'écoute d'Apolline Matin qui serait montée de plusieurs points.
On gagne tout de suite des points en indice
France
bonheur.
La France serait en tête, en fait, d'après mes propres calculs, si on y ajoute le critère Apolline.
Vous seriez à combien, vous, entre 0 et 10, là, de bonheur?
Ah, là, tout de suite, là, ouais. Là, je suis à 12, là. Ah. C'est mon heure.
6h57, c'était Charles Magnin, mesdames, messieurs. Dans un instant, la météo et le journal avec à la une du journal de 7h, les enjeux de l'interview d'Emmanuel Macron, vous le savez. Il s'exprime à 13h.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.